bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Ah, je vais remettre de la pêche là-dedans parce que tout à l'heure c'était un peu mou, hein.
Ah, enfin de la radio. Enfin la radio 2018.
Oui, la bande originale, allez.
Merci.
Hop, c'est parti.
Allez hop, non, restez encore un tout petit peu, on peut faire le passage antenne le plus long de la planète.
Ah, oui, si vous parce voulez. Que présentement, il faut qu'on vous avoue quelque chose.
Vous n'avez pas d'invité.
Non. Alors, mais qu'on a un plaisir comme ça à converser avec vous, tout de suite, vous nous renvoyez dans la tête,
c'est
on n'a pas d'invité.
Incroyable, mais je peux parler de ma vie, mon œuvre aussi.
Et alors, justement,
je fais toujours du
37. Quel rôle a joué Bécassine dans votre vie?
Oui, c'est vrai.
Eh bien, comme je répondais Antoine Decaune hier, c'est ma cousine comme à tout le monde.
Oui, mais vous lisez plein de BD.
Non,
vous,
sincèrement,
Laetitia, vous la connaissez ?
Je n'ai pas été très fan de Bécassine. Voilà, j'ai pas été très attirée par Bécassine. Voilà.
Et pourquoi
donc
vous
connaissez... ça tue pourquoi... un petit peu l'interview
non,
mais de
pourquoi
moi-même.
Pourquoi tout le monde connaît Bécassine sans avoir lu Bécassine ?
C'est pas moi l'invité de cette
c'est
émission.
Vrai, c'est vrai. À tout à l'heure midi.
Merci. Merci. Hein. Et bon courage et bonne chance.
C'est la bande originale,
et
oui, avec Leïla Kadouadami, Marina Rollman,
bonjour.
Daniel Morin, Albert Albour, tout à l'heure Tanguy Bassureau, et on attendra calmement Bruno Podalides, notre invité, pour parler de Bécassine. Je vous repose, puisque vous êtes spécialiste bande dessinée, mon cher Albert, la question, pourquoi tout le monde connaît Bécassine sans forcément l'avoir lu?
Parce que peut-être c'est devenu... À brûle-pourpoint, je peux peut-être un archétype, un type humain, un personnage à la fois simple, un peu bébête, mais représentatif d'un certain type social, si vous voulez, la boniche, naïve au grand cœur, etc.
C'est ça. Alors, Bécassine vient de... D'ailleurs, le mot est utilisé dans le film de Bécasse, pour pas dire...
Bétasse, Bécassine.
Ouais, ouais, c'est ça. Sauf qu'elle explique que son prénom lui vient la nuit de sa naissance, d'un vol de Bécasse qui aurait survolé la ferme. Voilà pourquoi on l'aurait appelé Bécassine.
Et dans ce film, alors, je sais pas comment vous l'avez trouvé, Leïla, mais j'ai trouvé... Je m'attendais vraiment à voir des moqueries et de un peu le côté je fais que des bêtises et je suis bête et je vais me moquer de quelqu'un de bête. Et c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas ça. C'est une sorte de petit roman d'apprentissage de Bécassine qui veut partir de sa campagne pour aller gagner la capitale parce qu'elle rêve de Paris.
Elle est très naïve.
D'une naïveté exceptionnelle et en même temps
elle
d'une ingéniosité.
Elle est même touchante,
mais d'une grande ingéniosité. C'est-à-dire qu'elle est, pour moi, elle est une sorte de géotrouve-tout dans ce film. Elle invente des mécanismes, des machines, tout ça parce qu'elle est profondément gentille. Donc elle veut faire quoi ? Faire en sorte que
elle
la vie des gens, voilà, soit plus simple, plus agréable. Donc tout est tendu vers cette direction-là. La garde d'enfants, alors qu'elle pourrait partir à Paris, elle garde l'enfant de cette comtesse, elle pourrait l'abandonner. Ben non, c'est ce qui est touchant dans ce personnage, c'est la parole donnée, c'est l'honnêteté, c'est ce lien, cette absence de sentiment de trahison. Jamais Bécassine ne pourrait venir trahir qui que ce soit.
Albert, vous avez vu le film, comme Leïla et moi. Qu'en avez-vous pensé ?
Ben, j'ai pensé que c'était plus positif que...
On peut sacher, il n'est pas là, hein, Bruno Podalides. On peut tout dire. Hein.
Non, parce qu'il y a eu des levées de boucliers de la part...
Alors ça, c'est... Ça, je ne comprends pas.
Backlash breton.
Ouais, c'est ça.
Voilà, de certains bretons. Mais il reste sur l'impression d'une Bécassine plus ancienne, qui est effectivement un personnage sans bouche.
Hein. C'est vrai qu'il ne parlait pas. C'est la première héroïne de BD, elle n'avait pas de bouche. Quoi. Je peux dire. Non, mais c'est vrai.
Il faut y aller progressivement. Hein. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est fou.
Elle n'avait pas de bouche. Tandis que là, ils en ont fait un personnage bon, qui est verbal, si j'ose dire, et qui n'est pas si bête que ça. Elle est naïve, elle a une forme d'innocence, mais qui est une innocence assez poétique. Et ça, c'est assez bien vu dans le film.
Ouais, c'est même pas de elle dont on se moque le plus dans le film. C'est plutôt ceux qui sont autour, qui se font gruger, qui se font avoir. C'est voilà. Plutôt les riches, les nantis. Les, voilà.
Monsieur Rastakpueros.
C'est ça. Ah, alors là, il y a un autre débat. Enfin, moi, personnellement, sur ce personnage, est-il gentil, est-il méchant et abuse-t-il de la bêtise des riches et pas du tout de Bécassine, parce que moi je le mets plutôt du côté de Bécassine.
Oui,
Rastakpueros, joué par Bruno Podalides.
Oui, alors il a un surnom, un nom ou un surnom, je ne sais pas, très ambigu, hein, parce que le Rastakpuer, ça a été un terme très péjoratif pour désigner des personnes qui n'étaient pas très françaises.
C'est comme ça que j'appelle Nagui, moi.
Le maréchal qui surgit.
En toute amitié.
Et Lola Rastakpuer de Gainsbourg. qui n'était pas
si naïve non plus.
Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que là, c'est le fond de ce film, mais il y a la forme du film qui est vraiment, mais moi, qui m'a beaucoup plu. C'est très séduisant, cette façon de créer du cinéma avec, là encore, comme Bécassine, des choses ingénieuses, des marionnettes, des projections, des scénettes comme ça qui n'ont l'air de rien et qui pourtant créent la poésie dont tu parlais, du personnage et de l'environnement.
Alors, l'histoire du film en elle-même, c'est donc une jeune fille qui veut quitter sa condition
sa province.
Sociale et sa province.
Comme beaucoup de
partir
comme
pour la capitale.
Au début au 19e siècle, au début du 20e siècle, l'immigration, elle était intérieure. C'est-à-dire les employés de maison, elles venaient de Bretagne, ouais, la plupart. C'était les immigrés de l'époque.
C'est ça que reprochent les Bretons, c'est de dire qu'il y a eu...
C'est factuel.
Oui, non, mais les Bretons reprochent l'idée de dire qu'on ne rend pas honneur à toutes ces femmes qui sont parties de Bretagne, qui se sont battues, etc. Et que le fait que le seul étendard qu'elles aient, ce soit ces espèces de dames un peu naïves, c'est ça qui les...
Sauf que Bécassine n'est pas représentative des Bretonnes.
Ils n'ont pas vu le film avant de juger.
Non, mais c'est le personnage de Bécassine qui les a battus.
Moi, j'ai entendu la polémique, puis vu le film, j'ai pas du tout compris la polémique.
Mais ils l'ont pas vu, c'est sûr.
Parce qu'il y a rien de moqueur, il y a rien d'agressif, c'est plutôt tendre et poétique. D'autant plus, on va quand même le dire, elle part à pied pour la capitale, elle voit la Tour Eiffel comme une espèce de mirage, mais qui se situe à peine à 200 mètres de chez elle, et là, pris par l'orage, elle va juste sonner devant l'espèce de château bourgeois qui se trouve vraiment à quelques mètres de chez ses parents.
Et qui va cristalliser son envie. Ça. Parce que quand elle va se retrouver à nouveau devant cette grille, elle va réaliser que une part de son rêve était là-dedans aussi. Tout d'un coup, c'est la découverte d'autre chose. Elle quitte son oncle, qui est merveilleusement incarné par Michel Villermoz, pour aller espérer découvrir une autre vie, des tissus, des dentelles, être au service d'eux. Elle a ce sens du service
inné. Et puis, un rapport à l'enfance qui lui fait marquer des points auprès de la famille, puisque elle va pouvoir s'occuper de la petite fille, Lolotte.
C'est Louise Charlotte, Lolotte.
Et elle saura la calmer, elle saura la réconforter. Elles vont se comprendre comme si la naïveté d'une adulte va bien avec celle d'un enfant qui découvre la vie. Et ça, c'est extrêmement touchant et tendre. Il n'y a pas du tout de moquerie là-dedans.
Il y a un côté, au bon sens du terme, comtesse de Ségur, notamment, je pense à La Sœur de Gribouille, qui est un très beau livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Il y a le côté Malheur de Sophie aussi.
Où la sœur de Gribouille est une employée de maison et est très protectrice de son frère, a une relation avec ses employeurs qui est à la fois conflictuelle puisqu'elle défend son frère, mais en même temps pleine de poésie. Alors on va dire c'est utopique parce que ça se passait pas comme ça. Effectivement, la Bécassine de ce film ne correspond pas aux vraies Bécassines de l'époque qui débarquaient à Paris pour se faire exploiter.
Il n'empêche que le terme de Bécassine n'est pas non plus un compliment.
On va réhabiliter Bécassine.
Voilà. Non, mais il y a aussi une chose, on parlait de la forme du film, effectivement, c'est joli.
C'est drôle, et puis c'est drôle.
Quand je dis c'est joli, c'est vraiment au sens propre du terme. Ouais. C'est esthétiquement. Et je trouve que ça correspond à la beauté de la bande dessinée. Parce que ce qui est très intéressant, et vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi la pérennité de Bécassine aussi? Je pense que ça tient aussi à la qualité du dessin. Pinchon était un très grand dessinateur, qui a été l'élève de grands peintres, de grands maîtres, comme il s'appelait Albert Bénard, qui était un grand portraitiste de la fin du 19e. Il a été à cette école-là et puis, pour gagner sa vie, il n'a pas fait de la peinture, il a fait de la bande dessinée et il a été un des initiateurs de la ligne claire, on peut le dire. Oui. Hergé respectait Pinchon, il respectait aussi Alain Saint-Augan, mais c'était la qualité du dessin qui fait aussi qu'il y a une pérennité de Bécassine, parce que c'était beau, simplement. N'en déplaise aux gens qui critiquent le fond.
Incalculable, en plus, d'albums de Bécassine.
Oui,
une trentaine.
Ouais,
c'est ça.
Oui,
trentaine. Ça fait beaucoup. Je pensais que c'était vraiment
Mais elle a épousé, si vous voulez, une partie du 20e siècle, c'est-à-dire, elle découvre l'automobile, ensuite elle découvre l'aviation, il y a Bécassine cherche du travail à un moment, c'est en 1936, à l'époque du Front Populaire.
C'est pour ça qu'elle est confrontée. Dans le film, elle cherche aussi à suivre les inventions et à porter l'eau.
Voilà, on retrouve la vraie Bécassine, donc qui n'est pas si bête que ça.
Et la découverte de l'eau, c'est génial. L'eau courante, la découverte de l'électricité, tout d'un coup, dans le film, moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est que il arrive, Bruno Podalydès, à insérer des petits moments de gags, de drôlerie. C'est souriant comme film, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'itinéraire d'une naïve qui va servir des bourgeois. C'est drôle, c'est un peu gaguesque. Moi, j'ai pensé un peu à Gaston Lagaffe. je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le vert du costume qui m'a fait penser tout d'un coup à ce personnage. Il y a à la fois une sorte de Tintin qui fonce d'être baissé, qui a décidé, qui est inventeur et qui veut avancer. Et donc, moi je trouve que le personnage de Bécassine, au contraire, il s'en sort grandi. Déjà, elle a un orifice pour parler, c'est déjà pas mal.
Ok, c'est fait.
Ah bah, écoute.
Le film sortira la semaine prochaine, ça sera le 20 juin, avec Emeline Bayard dans le rôle de Bécassine, Karine Viard, Denis Podalydès et son frère Bruno Podalydès qui en est le réalisateur, Michel Villermoz dont tu as parlé. On accueillera Bruno Podalydès qui est en retard et qui va, il va nous rejoindre, mais ça sera un peu plus tard dans l'émission. On a un invité de marque quand même, puisque c'est Jean-Philippe Pétain qui est avec nous.
Cher monsieur Nagui,
oui.
Comme jadis le fit mon oncle Philippe, en mettant en garde les vrais Français contre les mensonges qui leur ont fait tant de mal, il est de mon devoir de faire savoir à vos éditeurs qui viennent d'allumer leur poste de TSF comment se prépare votre programme. Une tâche essentiellement dévolue à un garçon qui, bien que natif de la bonne ville de Coulommiers, s'est affublé d'un surnom américanoïde, GNB, révélateur d'un alcoolisme et d'une sexualité aussi contre nature que débridée.
Je vois pas le rapport.
Bref, quand vous lui avez demandé « C'est qui vient ce matin ?» et après que GNB vous eut répondu « Bruno Podalydès, oh mon maître !» vous vous êtes écrié « Mais j'en ai rien à cirer, moi, de Bruno Podalydès. Il est toujours en retard. Il se fout de nous. Bougre de salaud. C'est son frère Denis qui fallait faire venir. D'abord, il est beaucoup plus sympa et moins en retard que son frangin. Ensuite, c'est un habitué de l'émission et de France Inter tout entière. Il était encore chez Decaune. L'avoir comme invité, ça m'aurait permis, en les rebidouillant un peu, de refourguer les questions de la dernière fois où il est venu. Mais, patron vénéré, pardonnez-moi d'avoir la folle outrecuidance de me permettre à genoux une suggestion. Comme Bruno Podalydès est à la fois le réalisateur en retard du film et un de ses personnages, Monsieur Rastaqueros, cela vous permettra de fourbir une de vos questions fétiches. Comment ça se passe quand on est à la fois derrière, devant et à côté de la caméra? Je vous écoute souvent. Et est-ce qu'on a la même exigence envers soi-même qu'envers les autres comédiens? Et patati et patata. Ah, finalement, avez-vous répondu, Nagui, GNB, tu n'es pas aussi con que tu en as l'air. Allez, ok pour Bruno Podalydès, même s'il est toujours en retard. Voilà, Monsieur Podalydès, s'il avait été là, je lui aurais dit comment se prépare la bande originale. Pour ma part, si je me réjouis de la sortie de ce film, je déplore qu'il soit agrémenté, que Bécassine soit agrémenté d'une bouche, alors que l'original était dépourvu. En effet, n'en déplaise à Madame Cadeau. Du temps de mon oncle Philippe, les femmes de France savaient accepter les plus rudes épreuves en restant muettes. Mais paraît-il que c'est à moi de me taire, alors je vais me la fermer, et comme chaque jour, n'écoutez pas cette émission.
Merci.
Et puis le film est réussi aussi parce que Emeline Bayard, qui interprète Bécassine, c'est un excellent choix. On l'avait vu dans quelques films précédents de Bruno Podalydès, dans certaines mises en scène de Denis Podalydès aussi. Et je trouve qu'il y a eu un vrai travail sur la démarche, sur le rapport au corps dans l'espace, qui fait que tout d'un coup, un personnage de BD devient incarné et c'est crédible et on peut suivre l'histoire.
Est-ce que la condition de la femme est...
La femme bâillonnée quand on parlait de Bécassine. Je ne sais pas si dans les premières bandes dessinées, est-ce que Tintin, il avait vraiment une bouche dessinée?
Ah oui, bien sûr.
Dès le départ.
Il est verbal dès le début. Mais
c'est vrai que dans le dessin, Tintin et Bécassine sont très proches.
Oui, tout à fait. D'ailleurs,
il paraît que c'est la même personne.
Mais
t'arrives toujours.
Vous croyez pas si bien dire. Parce qu'il y a une anecdote dans la bande dessinée. Si on rapproche le visage de Bécassine et celui de Tintin, ils sont très proches. Et le dessinateur DJ, qui s'était fâché avec Hergé à un certain moment, il avait parce que Hergé lui avait reproché d'avoir créé un personnage qui ressemblait à Tintin. Et DJ a répondu en mettant la tête de Bécassine, la tête de Tintin, et entre les deux, la tête de son personnage à lui, pour signifier à Hergé que lui aussi avait des influences.
Qu'il y a une famille,
et que tout le monde se fait influencer par ses prédécesseurs. Et donc, effectivement, il peut y avoir un lien. Et elle a un côté Tintin dans son côté débrouillard, son côté aventureux.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce parallèle, ce côté fonceuse.
Bécassine, le film sortira le 20 juin. Bruno Podalydès arrivera dans 20 minutes. Et voici Étienne Dao avec son jardin.
Elle repose au milieu du...
affolé par mille et un parfums. Son esprit déambule au-dessus des jasmins. Ivoine rose, pourpre et carmin. Rafale de senteurs et célestes vapeurs. Pierre montagne, léger nos âmes.
Le jardin, c'est Étienne Dao, vous êtes bien dans la bande originale et voici l'humeur de Marina
Hollmann. Ça y est les amis, nous voici à quelques heures de l'événement qu'on attend tous impatiemment depuis des mois, car oui, c'est bientôt le coup d'envoi de Art Basel, oui exactement, oui. La foire d'art contemporain de Bâle, qui pour les mortels ouvre demain, mais à laquelle j'ai eu la chance d'assister hier, parce que j'ai une vie plus intéressante que la vôtre. Et donc, en me baladant comme ça hier, je sais pas, c'est pour ça que vous m'aimez bien, je pense. Et donc, entre les installations, les vidéos et les jupes culottes, il s'est miaqué, j'ai constaté que malgré un certain illettrisme en matière d'art contemporain, j'ai pris énormément de plaisir à voir ses œuvres. Or, je trouve que c'est une critique un peu flémarde qui revient souvent avec l'art contemporain, de dire « ouais, mais j'aime pas parce que je comprends rien. » Mais il y a plein de trucs que tu comprends pas, que t'aimes bien, les paroles de Balavoine, le film Inception, le flan, le sexe. Moi-même, je possède un vagin, je comprends très mal comment ça fonctionne. Alors je sais quand c'est rigolo, mais je peux pas te détailler le truc en plan de coupe. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben, l'art contemporain, c'est pareil. Il y a plein de choses que tu peux juste ressentir spontanément et c'est déjà chouette. Et puis il y en a d'autres, en effet, parfois ça prend 2 minutes à comprendre, mais comme tout en fait. La philatélie, le métal, le patinage artistique, faut du contexte pour apprécier. Je veux dire, même le film le plus populaire qui soit, tu peux pas te pointer dans la salle de cinéma au milieu du truc et dire c'est quoi, c'est qui, je comprends rien, il fait tout noir, c'est de la merde, on y va, ciao. Et puis le truc cliché aussi, c'est de dire que ce que tu vois dans les galeries, oui, mon gamin, il aurait pu faire pareil. Alors sincèrement, le jour où ton gosse de 4 ans, il prépare sa conférence pour le Palais de Tokyo sur la présence de la critique des médias et la réappropriation de l'espace public sonore dans ses installations vidéo, plutôt que de faire chier tout le monde dans le TGV à regarder Peppa Pig sans les écouteurs, je te jure qu'on sera tous contents. Non mais tout ça pour dire l'art contemporain...
Ça sent le vécu ça.
Oui, un petit peu, ouais. Je prends beaucoup le TGV. Tout ça pour dire l'art contemporain, c'est plein de gens se l'interdisent parce que ce serait supposément trop obscur et moi je trouve que c'est dommage. Et alors il y a une mécanique un peu inverse et asymétrique pour le football, parce qu'il est très présent médiatiquement et que c'est massivement populaire, il y a des gens qui se sentent intelligents d'éviter le foot. Là, on commence à les entendre là depuis quelques semaines, ceux qui se gaussent déjà. Alors moi, j'en ai rien à carrer de la Coupe du Monde. Je vais pas regarder un match. Mais tu sais que tu ne gagnes pas de points en le proclamant. Hein. C'est pas tu chies sur 5 Coupes du Monde d'affilée, à la 6e, t'es automatiquement fait chevalier des arts et des lettres. Hein. Tu vas pas recevoir un coup de fil un jour. Alors Thierry, on a entendu que vous n'aimiez pas le football. On voulait donc vous proposer d'éditer vos statuts Facebook à la Pléiade. Félicitations. Mais donc, je me suis dit, à l'aube de ces deux événements majeurs que sont pour leurs domaines respectifs Art Basel et la Coupe du Monde de football, ne faudrait-il pas en finir avec ces clichés hein, qui voudraient que d'un côté le football ce soit un passe-temps de demeurer, tandis que l'art contemporain serait une vaste fumisterie élitiste. Alors déjà, pour le foot, il faut arrêter. C'est pas du tout un truc de bourrin. Visuellement, c'est quand même des professionnels du corps. Il y a une vraie perfection du mouvement chez les footballeurs. C'est pas moins gracieux que la danse. Et en plus, c'est de l'impro. Tu vois, moi j'adore la danse, mais t'imagines les enjeux? T'imagines si un ballet c'était deux équipes de ballerines qui se pointent sur scène, qui savent pas ce qu'elles vont faire, tu vois? On pourrait mettre des commentaires, ce serait dingue. Et en ces débuts de deuxième acte, attention à l'avant-centre du Bolchoï qui récupère la pointe, pas chassé, pas de bourré, de pirouette, alors c'est la première. Et c'est l'entrechat, oui! C'est historique! Marie-Claude Pietragala est en larmes à côté de moi, la Bastille à vous pour le ralenti. Alors oui, l'art contemporain.
C'est drôle comme ça.
C'est sympa, ouais. Bah oui. Alors oui, l'art contemporain, on sent peut-être un petit peu moins spontanément qu'au stade la chaleur, hein, le collectif, c'est vrai. Mais on pourrait penser des chants pour relier les amateurs, tu vois. Et un, et deux, et trois, biennale, qui ne saute pas n'est pas conceptuel. Gagosian, on tanque. Enfin voilà, tu vois, des trucs. Et finalement.
C'est pas ça, l'air. Gagosian, on tanque.
Ah voilà, c'est. Ah pardon, vas-y. Alors c'est vrai qu'on t'embrasse, oui, c'est ça.
La musique est pas la même.
Et finalement, les deux, le foot et l'art, c'est pas si loin l'un de l'autre. La preuve, hier, j'ai assisté à une scène assez édifiante à l'heure du déjeuner à la fin. Vous savez, nous les Suisses, on est connus pour faire très bien l'amour, oui c'est vrai, les humoristes aussi, mais surtout les saucisses. Et donc hier, au milieu de plein de sang...
Saucisses suisses
de... Oui, bien sûr, on fait des saucisses de veau extraordinaires, je sais que t'aimes pas le veau, mais... Et donc hier, au milieu
si
de...
Je l'aime, mais
oui, bien sûr, mais quand tu porteras des chaussures en carton, on en reparlera. Et donc hier, au milieu de plein de stands de nourriture diverse, celui où il y avait la plus grande queue, c'était le stand pour les saucisses. Et dans cette queue, il y avait un vrai côté stade, tu vois, il y avait des gens qui avaient de l'argent, d'autres moins, il y avait des tatouages incongrus, il y avait des bijoux pas toujours discrets, il y avait des coupes de cheveux discutables. Et surtout, il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde, réunis autour d'une passion commune et qui faisaient la queue pour des saucisses. Et c'est là que vraiment ça m'a frappé. On n'a pas besoin de séparer, tu vois. Tu peux aimer Bach et Maria Carey, les X-Men et Xavier Dolan, Griezmann et Soulage. De toute façon, tout ça passe très vite et on sera tous un jour tout seul avec nos souvenirs. Donc peu importe le lieu, galerie au stade, vaut mieux avoir kiffé un peu. Alors les amis, moi je dis vive le football, vive l'art et bonne saucisse à tous.
Ouais, bravo.
Merci Marie-Romane.
La bande originale.
Une personne ouverte d'esprit autour de cette table.
Manger une saucisse à Basel,
c'est chic. Hein,
qui ne sait pas comment fonctionne son vagin. Donc c'est quand même l'information.
Si tu veux, c'est
un se laisse de la surprise.
Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de tout comprendre.
Il ne faut pas intellectualiser tout.
Bécassine, le film sortira le 20 juin.
La semaine prochaine, pile poil.
Et pour... Merci.
Eh bien.
Je donne des infos comme ça, un peu pratique.
Jean-Christophe Augier. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous.
Journaliste, spécialiste bande dessinée à France Info. Et présenter BD bande dessinée chaque dimanche. C'est à 10h54.
Oh là, vous savez mieux que moi. Vous savez, c'est sur France Info, donc c'est multidiffusé.
Et 15h56 sur France Info.
C'est précis, c'est précis.
Oh là là,
alors, nous parlons de Bécassine, et je vous repose la même question. Pourquoi tout le monde connaît Bécassine sans forcément l'avoir lu?
Eh ben, j'écoutais la question tout à l'heure et je me disais que c'était plus qu'un archétype, peut-être un logo. Un peu comme Mickey, les oreilles de Mickey. Alors, Mickey, lui, a continué. Mmh. C'est sans doute l'un des rares personnages qui est né... presque au même moment et qui continue à vivre. Les autres sont un peu, on les a un peu perdus de vue, mais effectivement il y a comme ça un certain nombre de personnages de bande dessinée et Bécassine en est un qu'on peut voir. Et d'ailleurs dans le film, un des trucs remarquables, c'est qu'on la voit souvent de dos, qui marche sur la route par exemple, et on sait que c'est elle. Il suffit de voir la forme, la tête ronde, la robe verte,
le velours noir
autour des manches, la coiffe blanche.
Et la coiffe surtout,
effectivement.
Mais quand est-ce qu'on parle de Chantal Goya? Parce que j'ai la sensation quand même que c'est grâce à
elle. Plus fait à la notoriété.
Bah, oui, qu'on garde un souvenir assez précis.
Pour une certaine génération.
Plouf, on met tout quand même à l'endroit, parce que Bécassine, comme le disait Albert, Bécassine a quand même fait partie du siècle. Elle est née en 1905 et elle a vraiment vécu jusqu'en 1960 à plein. Et là, les petites filles devenues grandes qui offraient aussi aux nouvelles petites filles, ça existait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, plus tout à fait. J'ai pas l'impression qu'on lise beaucoup Bécassine. Ne serait-ce que parce que la bande dessinée elle-même, c'est-à-dire Bécassine, la bande dessinée, a vieilli. La modernité, elle est arrivée avec Tintin quand enfin les bulles sont arrivées et qu'on, la grammaire de l'image, la grammaire de la bande dessinée s'est installée de manière confortable. Alors que là, quand vous ouvrez un Bécassine, j'allais dire d'avant-guerre aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça à lire. Mais en revanche,
non, mais il faut expliquer,
elle est là.
Il faut expliquer qu'il y a le dessin.
Vous avez raison.
Et en dessous, le texte dialogué comme dans une pièce de théâtre, avec des tirés, des à la ligne, mais pas de bulles.
Et souvent redondant, c'est-à-dire qu'on nous raconte ce qui se passe dans le dessin, ce qui n'a évidemment plus lieu d'être, puisqu'on a des yeux pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, les Français ont eu beaucoup de mal avec ça, à accepter cette idée qu'on pouvait mettre des bulles. Les premiers Tintins, et je reviens à Bécassine tout de suite, mais les premiers Tintins, quand ils sont arrivés en France, on a retiré les bulles pour remettre des textes dessous. Ouais. Et Hergé dit, mais enfin, ça suffit, ils sont un peu cons ou quoi. C'est vrai.
Et en l'occurrence... Oui, Zig et Puce, qui venait avant Tintin, qui était une BD très, très, très populaire, il n'y avait que des bulles.
Ah, il n'y avait que des bulles, effectivement. Et d'ailleurs, Hergé se revendique plus de Saint-Augan que de Bécassine, que de Pinchon, pour cela. Mais je confirme en tout cas l'anecdote racontée par Albert Algout. Oui, quand J.G., grand maître de la bande dessinée, qui a créé plein de choses,
Jean Ballardy,
de Giraud, il a formé Giraud qui faisait Blueberry, il était même encore très connu dans les années 80. Quand dans les années 30, J.G. fait son Jojo, voilà, J.G. fait son Jojo, ça plaît pas du tout à Hergé qui lui fait savoir, et le J.G. renvoie trois dessins, effectivement.
Ouais, ce que t'as raconté tout
à l'heure. Voilà, c'est-à-dire la Bécassine, le deuxième, il retire la coiffe de Bécassine. Et le troisième, il rajoute la houppette. Le débat était clos.
Et pardon, Jean-Christophe, ça ne dit toujours pas pourquoi tout le monde connaît Bécassine sans forcément.
Il lâche pas l'affaire, Nagui.
Ben, je pense quand même que d'abord, dans la mémoire nationale, oui, on va y venir, mais dans la mémoire nationale, quand même, ça a duré très, très, très longtemps, ce personnage de sotte, effectivement. Et que, oui, d'abord, faut savoir quand même que la fameuse revue La Semaine de Suzette, où c'était diffusé, ça a été jusqu'à 200 000 exemplaires par semaine vendus.
Il n'y avait pas la télé.
Voilà. Non. Donc, tout ça existe. Il y en a encore plein les mâles dans les greniers, pour ceux qui ont encore des greniers, qui habitent pas en ville, mais...
Et encore des mâles.
Chez Nagui,
il y a un très grand grenier.
Où je dors.
Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un peu tombé, et on doit beaucoup à Chantal Goya, Bécassine, c'est ma cousine, pour faire revivre ça.
Alors, qui a créé Bécassine? Est-ce que c'est Jacqueline Rivière?
Oui.
Est-ce que c'est le dessinateur?
Les deux, mon général,
et
évidemment.
Joseph
Pinchon. Alors, le premier, c'est effectivement intéressant. Jacqueline Rivière était la rédactrice en chef de La Semaine de Suzette. Premier numéro. Le numéro complet. Ah, c'est ballot, il manque la dernière page. C'est blanc. Immédiatement, elle gratte une petite histoire en prenant exemple sur Sabonne, toutes les bonnes. Il y avait 100 000 bonnes bretonnes à cette époque-là, à Paris. Et elles avaient toutes la coiffe, effectivement. Donc elles étaient.
Mais elles étaient forcément bretonnes.
Elles étaient françaises.
La coiffe, elle est plutôt picarde, celle de.
Alors, la coiffe spécifique. Ah, monsieur, c'est tout, monsieur, c'est tout.
C'est hyper pointu, hein.
C'est hyper pointu.
C'est une coiffe.
Mais je sais pas pourquoi je suis venu, moi.
Parce que Pinchon, le dessinateur, était d'Amiens.
Était amiénois. Il est enterré à Amiens.
Comme Macron.
Et madame.
Et donc, dans le costume de Bécassine, il s'est inspiré des costumes régionaux de sa.
Donc en fait, Bécassine n'existe pas vraiment.
Non. Non,
d'accord. C'est un mélange de costumes et d'origine.
Donc raison de plus pour pas y voir une attaque à toutes les bretonnes. Quoi.
Alors les Bretons ont pas aimé parce que effectivement elle est présentée comme une sotte, mais je crois surtout que ce qui était dans Bécassine, c'est pas on se moque pas des Bretons, on se moque des pauvres. C'était plutôt
une BD de riches, ceux qui aimaient Bécassine.
Ah, ben parce que La Semaine de Suzette, ce fameux journal, ce fameux hebdomadaire, c'était fait pour les petites filles de bonnes familles, éduquées, celles à qui on allait apprendre à la fois les bonnes manières, mais aussi un peu de couture, et puis de donner des exemples. Et on pouvait se moquer, comme on se moquait d'ailleurs avant du sapeur camembert de Christophe. Je sais pas si vous avez connu le sapeur camembert, ce soldat, très bien connu, le sapeur camembert, effectivement. Mais c'était pareil, c'était un homme du peuple et on se moquait de l'homme du peuple. C'était facile d'offrir ce miroir-là. Mais en l'occurrence, c'est plus le quai des Grands Augustins à Paris, c'est-à-dire là où il y avait la semaine de Suzette, qui se moquait de, ouais. de la pauvreté, qui se moquait de la province, qui se moquait effectivement des petites gens. Bon, voilà. Mais, comme on l'a tous vu dans le film et comme on l'a tous lu, si on lit encore un peu Bécassine, elle n'est pas que sotte, elle n'est pas que bête, elle est effectivement inculte et elle comprend tout de travers parce qu'il faut être éduqué pour comprendre les choses immédiatement.
Mais elle est instinctive.
Elle prend tout au premier degré, mais elle est instinctive. Elle est courageuse, elle est inventive. Ouais. Et ce qu'on voit, par exemple, dans le film, elle fait des inventions, on les retrouve dans les albums. Il était allé piocher, Bruno Podalydès, dans les albums même de Bécassine. Et puis, c'est un moment clé où la femme commence aussi à se révéler. C'est dans le même immeuble qu'on est dit du quai des Grands Augustins, qu'on est dit en 1900, 5 ans avant, Claudine à l'école, d'accord. de Colette. Et donc là, il y a une sorte d'émancipation. Je rappellerai que c'est en 1914, à l'âge de 15 ans que Suzanne Langlen gagne son premier championnat du monde de tennis sur terre battue. C'est un exemple pour la jeunesse aussi. Donc il faut que la femme, et c'est ce qu'on va retrouver dans Bécassine, soit audacieuse. Elle va faire de l'aviation, Bécassine. On la voit dans le film prendre le volant de la voiture. Elle va faire du ski, elle va faire du bob, elle va tout découvrir. Elle va faire la guerre aussi.
Mais cette espèce d'émancipation que l'on voit dans le film, c'est pas l'image que j'avais de Bécassine. Est-ce que le film est fidèle ou pas
oui,
au BD
oui, oui, non,
moi,
oui,
j'ai jamais
ça.
Lu.
Mais oui, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on a gardé à l'esprit la sotte. Hein, la bébête, alors que déjà dans toutes les histoires, dans les 27 volumes d'aventure de Bécassine, on a une Bécassine qui au départ est effectivement celle qu'on découvre sortant de sa métairie avec ses pauvres parents et qui sait rien faire, c'est un peu ça, mais elle va s'émanciper, elle va grandir au fil de ses aventures, elle restera toujours celle qui prend tout au premier degré et qui a bien du mal à un peu les morceaux.
Mais ça, c'est de la bêtise ou de la naïveté, justement ? Pour les auteurs, c'était se moquer des petites gens, comme vous l'avez dit, ou c'était prendre quelqu'un de naïf, un peu aussi comme Gaston Lagaffe, pour lequel rien n'est impossible, tout est possible, et tous les délires, toutes les folies pour amener de l'humour, mais aussi se grandir et s'éduquer.
Comme tout personnage, j'allais dire de bande dessinée, mais de littérature, elle s'émancipe, elle va obliger les auteurs à la faire grandir. Donc oui, au début, elle est naïve. Au début, elle est sotte. Au début, elle sort de sa ferme. Mais elle va très vite confrontée aux éléments, être obligée de faire preuve, de montrer qu'elle est naïve, mais intelligente.
Elle est dégrossie au fur et à mesure. Voilà. Elle est brute.
Et parfois, elle est supérieure aux hommes. On le voit dans le film. Quand, à partir du moment où elle prend le volant, elle commence à rouler vite, elle maîtrise le véhicule au point que l'homme à côté, le chauffeur habituel, se dit, déjà, il a peur et il se dit, waouh, elle en est capable. Elle vient concurrencer l'homme sur son propre terrain.
C'est elle qui réussit à faire démarrer la voiture. Alors que le chauffeur, lui, n'arrive pas à faire tourner la manivelle.
Sur le physique, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples de personnages dans la bande dessinée où justement il y a eu des polémiques comme ça?
Alors, je suis obligé de regarder Albert parce que ça fait 3 jours que je réfléchis à ça en me disant c'est vrai, les Bretons qui râlent aujourd'hui. Je pense que vous disiez ils n'ont pas vu le film. Ils n'ont pas vu le film, mais c'est même pas nécessaire pour un certain nombre de gens en Bretagne de voir le film. C'est la figure elle-même de Bécassine.
C'est la marque.
C'est
la marque Bécassine.
Qui est désormais insupportable.
Une anecdote qui je ne sais pas si elle est marrante, mais en 1939.
On te dira après. Tu sais quoi? On te dira après.
Au musée Grévin, il y avait l'effigie de Bécassine. Et en 39, il y a des indépendantistes bretons qui ont déboulé au musée Grévin et qui ont brûlé, qui ont cassé la statue de Bécassine parce qu'ils la trouvaient dégradante pour les Bretons.
Donc c'était pas drôle. C'est dramatique. C'est dramatique. Y a-t-il un autre personnage de bande dessinée qui a créé une polémique par son comportement, par sa... Il y a eu l'histoire, mais ça, c'était pas une vraie polémique. C'est l'histoire de Lucky Luke avec sa cigarette. C'était plutôt une espèce de bien-pensance qui veut que...
Et qui a été très vite accepté par Maurice, qui a mis un brin de paille à la place de la cigarette. Et, et pourquoi pas, de la contrainte naît une capacité inventée. Le même Maurice était bien obligé de mettre des chocolats dans le Jesse James enfant.
Il y a les pieds nickelés au départ qui étaient complètement libertaires et anarchistes. Ça a déplu à certains bien-pensants. Et donc, ils ont un peu infléchi les scénarios par la suite.
Ça, pour c'est voir, un tout bel ça, exemple. Tout ça est d'ailleurs concomitant, puisque 1905, naissance de Bécassine. 1905, aux États-Unis, naissance de Little Nemo, de Winsor McCay, une autre, mais même année. Et puis 1908, naissance des pieds nickelés de Forton. Tout ça, c'est un peu concomitant.
Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de personnage.
Si, bon.
Lorsqu'Astérix se fait Astérix chez les Corses, par exemple, il n'y a pas. Les Corses ne disent pas c'est un scandale, c'est une honte, arrêtez de faire cette.
Il s'est jamais aussi bien vendu, c'est l'album. Toutes les familles corses ont Astérix en Corse.
Ah oui.
Ils ont ça.
Pourtant, ils sortent pas grandi.
Et l'enquête corse de Pétillon. Ils ont tous l'enquête corse de Pétillon. Un jour, je vous raconte.
Qui est extraordinaire, l'enquête corse de Pétillon. Il faut saluer ce grand.
Donc, zéro polémique.
J'en vois pas beaucoup.
D'accord. Non, mais alors, pourquoi cette polémique autour de Bécassine? Et puis, surtout, merci de venir à ce micro. Bruno Bonalides. Pourquoi avoir choisi ce personnage? Avez-vous lu Bécassine quand vous étiez petit? Et il symbolise quoi dans votre volonté artistique?
Mais déjà, en tant que Bécasson, je tiens à m'excuser pour mon retard.
Tout va bien.
Je vais mettre de l'eau partout. En fait, comme beaucoup de gens, Bécassine m'était familière sans bien la connaître. Quoi, j'aimais bien sa bouille.
C'est ce qu'on a dit. On n'a pas forcément lu Bécassine et pourtant on la connaît.
Voilà, c'était un petit peu comme Rouletabille à l'époque où les gens connaissaient le personnage, mais ne se souvenaient plus de qui était l'assassin. Et là, Bécassine, je trouve qu'il y avait un aspect quand même injustement méconnu de sa gentillesse.
Et la volonté de prendre ce personnage, qu'est-ce qui vous a séduit chez elle, justement? C'est la part de naïveté, de découvrir le monde, voire d'essayer de le faire avancer avec des inventions. Vous le saviez, ça, avant de vous plonger sur le
non, dossier? Je me souvenais du jeu de mots biberon automatique. Et Bécassine, j'ai filmé le dessin qu'elle fait dans les albums. Et ce qui est amusant au cinéma, c'est de construire le truc. Parce que déjà, bon, c'est assez fumeux dans le concept, et c'est drôle que le cinéma permette à ces objets d'exister et de fonctionner. Il y a un petit mystère Bécassine, en fait, quand on regarde son dessin, c'est une espèce d'ancêtre de Tintin. Je sais pas si vous l'avez dit aussi, mais
justement, c'est intéressant. Vous parliez de mystère, vous avez fait le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir, et il y avait un côté très Tintin déjà dans ces films-là qu'on retrouve avec le choix de ce sujet Bécassine.
Oui, c'est vrai.
La culture populaire, vous aimez ça.
Plus, hein. Ouais. Il y a quelque chose de. Pardon?
Vous aimez la culture populaire, la simplicité des choses.
J'aime les choses qu'on partage, en fait. Au sens large, j'aime les chansons populaires. Enfin, tout ce qu'on se passe comme ça, qu'on réinterprète et qui traverse les générations. Ce qui me plairait avec Bécassine, c'est que plusieurs générations se retrouvent autour de ce petit personnage.
Et puis, ce que vous avez l'air d'apprécier aussi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la première idée que l'on peut avoir ou se faire d'un personnage, que Bécassine, en l'occurrence, on se dise, elle est bête, et finalement, on se rend compte qu'elle a une vraie communication, une vraie chaleur humaine avec les enfants, une vraie ingéniosité, une vraie découverte et un appétit de la vie. Et le Rastaquéros que vous interprétez dans le film, on peut se dire au début, c'est un vrai salopard, et en fait, se demander si c'est pas non plus un bienfaiteur. Pour aller au bout du.
Oui, c'est la vieille idée que
j'avais extrême.
Chez Renoir. Enfin, vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Donc, c'est toujours. C'est ce que le cinéma nous permet. On s'identifie à quelqu'un et du coup, on peut même se mettre à la place d'un criminel au cinéma. C'est chouette.
Non, mais le contre-pied de ce que l'on attend d'un personnage et de ce qu'il donne. Parce que c'est le cas des deux.
Oui.
Des deux héros.
Ah, mais là, il y avait une pente à remonter terrible avec Bécassine parce que tout le monde m'en parle. En disant, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, vous demandez aux gens, ce que France 3 l'a fait, notamment en Bretagne, évidemment, mais les gens ont des a priori très négatifs sur Bécassine sans leur expérience de lecteur, en fait. Elle se traîne comme ça une image. J'ai trouvé très amusant d'aller contre, parce que c'est toujours des bonnes nouvelles dans la vie quand on a des préjugés négatifs puis qu'on s'aperçoit que non.
Comment vous vivez l'espèce de polémique qui finalement va peut-être plus servir à la promotion du film que le desservir?
J'aime bien que vous disiez espèce de polémique.
Ouais, parce que je sais pas comment définir tellement elle me paraît injustifiée après avoir vu le film. Je vois pas où il y a un problème. Alors ça a peut-être là aussi choqué ceux qui font polémique, peut-être même pour le plaisir de faire de la polémique. Comme l'a dit Jean-Christophe Augier, on a le sentiment que c'est plus contre la marque Bécassine, contre le mot Bécassine, le titre Bécassine, que le film en lui-même, où je trouve qu'elle sort plutôt grandi que moqué.
Oui, mais je suis content que vous disiez tout ça, parce que c'est, moi je suis moins crédible, c'est mon film, et bien sûr, oui, les gens qui ont appelé au boycott ne veulent pas voir le film.
Ah, donc, de toute façon, c'est un signe déjà que les gens appellent au boycott avant que la sortie du film, c'est déjà signé, quoi, que c'est totalement gratuit, que c'était juste un prétexte.
Il faut se calmer, il y a des choses plus importantes à boycotter dans notre vie que des films sur Bécassine.
Non, mais je pense qu'en fait, ce qui les embête, c'est que c'est le seul moyen de mémoire qu'ils ont de cet événement-là, c'est ça. C'est-à-dire, personne ne parle des bonnes qui sont montées à Paris, etc. Et comme eux, manifestement, ça a brisé des familles, des trucs, ouais. C'était dur. Il n'y a pas d'autres récits qui en parlent, quoi.
Ah, d'accord. Oui, donc
c'est la mémoire historique.
Ouais, c'est ça, un problème de mémoire historique. Mais vous ne me dites pas quand même comment vous le vivez en tant qu'artiste, quand on crée une œuvre, d'avoir comme ça un mouvement, une communauté, une corporation, oui. Que sais-je, qui s'énerve sur une œuvre.
Oui, il y avait au départ une part d'amusement, parce que sur Bécassine, c'est assez comique, quoi, d'un coup de se triper. Après, quand on voit le tampon boycott sur son affiche, pour moi, c'est 3 ans de travail, donc c'est moins agréable. Puis c'était encore moins agréable, je sais plus, à Brest, où ils ont essayé, il y a une cinquantaine de spectateurs qui ont rebroussé chemin, qui pouvaient pas accéder à la salle, à cause de slogans. En plus, il y avait écrit comme au Chili, enfin, des trucs qui... Donc ça m'amuse de moins en moins, ouais. Et puis comme je parle beaucoup de ce boycott et pas du film, j'ai pas fait un documentaire historique sur la Bretagne et je salue le fait qu'on ait.
Est-ce qu'elle est vraiment en Bretagne? Parce que elle est à un moment donné, il y a une scène où elle est posée contre une borne de route qui est la départementale 17. Mm-hmm. Et je crois pas qu'elle passe en Bretagne.
D'être observateur. c'est bien possible. Il n'y a pas de Bretagne dans le film, en fait, à part le.
Ah non, il y a marqué, on remercie le Perche. Apparemment, vous êtes tourné un peu dans
le Perche. J'ai tourné en Normandie, dans le Perche,
Non, c'est la borne D17.
Attention, faut pas dire ça aux Bretons, ils vont être furieux.
Il y a bien une flèche avec une localité de l'autre côté de Paris, c'est quoi le village?
C'est Clocher-les-Bécasses.
Oui,
Clocher-les-Bécasses. Sur aucune carte.
Voilà. Qui n'existe pas. Mais je serais curieux, si en régie, tu peux regarder la D17, parce qu'elle est dans le film. Il me semble que la D17, elle est plutôt dans le sud de la France. Donc, j'ai pas compris pourquoi cette D17 apparaissait.
Mais Nagui a un côté très GPS comme ça.
Non, j'ai un côté très sud de la France. Moi.
On soulève comme ça des anachronismes ou des erreurs géographiques. Il y en a une autre, c'est l'affiche avec des champs de colza. Quelqu'un a écrit, mais des champs de colza en Bretagne au début du siècle, mais pardon. Et puis il y a quelqu'un qui a envoyé un tableau célèbre de, juste, j'ai oublié, à Locronan, où on voit que des champs de colza du début du siècle aussi.
Il y a un vrai débat.
On confirme simplement que la D17 est à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ça correspond en effet à l'endroit où je l'ai prise la dernière fois.
Bon,
un truc énorme.
Vingtaine de kilomètres de Quimper, quand même.
Tout de suite.
C'est pas à côté.
On peut remercier le clin d'œil sur Hergé, parce qu'on parlait tous de Hergé. Bravo pour la finesse de l'évocation, puisqu'à un moment donné, on fait broder une serviette à Bécassine, et on brode Hergé, et on lui dit, bon, et après, pour les autres, vous faites idem. Et elle brode idem. Et alors là, on ne pouvait pas mieux dire Bécassine, Tintin, Hergé, Pinchon, Hergé, idem. C'était joli, très très beau.
Alors, ce travail que vous avez réalisé, Bruno Benedès, vous l'avez fait à partir de 2 bandes dessinées. Vous vouliez vous appuyer sur des scénarios déjà existants.
Non, je suis pas du tout parti de scénarios existants. J'ai tenu
à proposer une histoire originale. De deux albums.
Pour les amoureux de Bécassine, j'ai semé ça et là des ingrédients, enfin des signaux de reconnaissance pour notamment la petite Loulotte, qui est un personnage attachant dans les albums. Mais j'ai plutôt collecté comme ça des. Il y a l'automobile qui vient de Bécassine en automobile. J'ai pris comme ça des éléments pour Ce que, si vous voulez, c'est des
comme des, comme des repères en fait.
Oui, c'est des petites scénettes.
Le biberon de nuit,
voilà, c'est ça que j'ai filmé.
Automatique.
Alors si vous le regardez, le lit est suspendu. Enfin, ouais. C'est quand même assez.
Et tout un système de poulies, mais on retrouve ce système de poulies dans le film justement.
Bien sûr, ouais.
Et ça, c'est ce qu'il y avait de plus compliqué à faire pour vous. Ça relevait presque des faits spéciaux.
Non, mais c'était la rigolade. Non, le plus dur, c'était l'éjecteur d'œuf.
Ah ouais, ça c'est compliqué. Ah,
ouais. Pour que ça tombe dans les coquilles.
193 prises pour que ça. Si ça arrive,
Mais on va pas divulgacher le film, c'est un élément clé, en tout cas dans l'histoire du film.
En tout cas, on a aimé le film et vous n'étiez pas là pour l'entendre, donc on va pas non plus. Voilà, mais c'est important de vous dire que c'est un film plein de poésie, plein de magie.
Ouais, c'est touchant.
C'est très très beau. Et il y a ce côté artisanal aussi qu'on retrouve, qui fait un parallèle avec le personnage et le travail du metteur en scène et du réalisateur. De même que Bécassine confectionne des choses en récupérant des pièces à droite à gauche, on a la sensation que c'est aussi un film qui a été fabriqué au bon sens du terme, un rapport vraiment très manuel, que ce soit au...
Ça sent le manque de moyens, ouais.
Mais non. Les marionnettes, l'apparition des marionnettes, ou tous les visuels, où on projette Paris, où on fantasme Paris, les lustres des grands opéras, et bien tout de suite, il y a quelque chose de très artisanal et qui fait œuvre de cinéma.
Et en cela, je voulais dire qu'il est fidèle à la beauté du dessin de Bécassine, parce que j'insiste là-dessus, Pynchon, c'est un grand dessinateur, et la pérennité de Bécassine, elle tient aussi à la beauté formelle. C'est vraiment un grand artiste, et c'est pour ça aussi que ça a eu du succès. Et il n'y a pas que le fond, il y a aussi cette forme qui est exceptionnelle. Absolument. Et souvent, quand on parle de bande dessinée, on n'évoque pas les dessinateurs, parce que, bon, à la radio, c'est difficile, puisqu'on ne peut pas montrer les dessins, mais c'est un dessin d'une très grande qualité, d'une finesse, il y a du rythme, les couleurs sont jolies, le trait est fin, c'est à la fois réaliste et poétique. Et dans votre film, on retrouve ce côté réaliste et poétique aussi.
Merci. Et c'est pour ça qu'on retrouve Bécassine sur les mugs en Bretagne, sur les bols partout, parce qu'elle n'aurait pas tenu si elle n'était pas aussi jolie graphiquement.
Tout à fait, voilà.
Et cette Bécassine, c'est aussi une... on va dire quoi? Un clin d'œil à l'enfance, vous et votre frère, des spectacles de marionnettes et de ce genre de jeu auquel vous...
Oui, bien sûr. Puis un peu comme Hérouletabille, vous savez, le parc de Versailles, c'était un jardin clos de murs, un terrain de jeu protégé. Donc j'ai toujours cette envie de raconter ça.
Est-ce que Bécassine, Jean-Christophe, est la plus ancienne BD française?
Ah non, 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 bien sûr que non. C'est, je dirais, presque la troisième déjà génération en termes de bande dessinée. Alors, je vais commencer par un Suisse.
Töpfer,
Rodolphe Töpfer. On est dans les années 1830, mais après, on a une vague vers 1890.
C'est la première BD mondialement connue?
Aujourd'hui, les grands experts, dont je ne suis pas, mais les grands experts s'accordent à dire que Rodolphe Töpfer est effectivement une brique, marque le début de ce qu'on peut qualifier de bande dessinée. C'était des histoires en estampes. Mais on y voit déjà des personnages qui bougent et déjà des textes qui courent à côté des personnages. La deuxième génération, c'est celle qui, à la fin des années 1890, on a le sapeur Camembert dont je parlais tout à l'heure avec Christophe, mais on a
Cosinus.
Aussi... savant Cosinus. On a aussi de l'autre côté de l'Atlantique le Yellow Kid d'Outcourt qui arrive. Donc ça, c'est la deuxième. Bécassine, c'est la troisième génération. On évoquait quasiment en même temps les pieds nickelés. On évoquait également Winsor McCay avec son Little Nemo, par exemple. Donc la troisième génération. Mais ce n'est pas encore tout à fait celle qui va perdurer, c'est-à-dire qu'il faut arriver justement après à Hergé, à la BD franco-belge, puis mondial.
Alors non, pour on est belge. La première bande dessinée française, alors.
Est-ce qu'on peut dire que
Alain de Saint-Augan?
Alain de Saint-Augan, peut-être.
Zygippus.
Oui, Zygippus. Peut-être avant quand même Christophe, c'est déjà de la bande dessinée.
Et Benjamin Rabier aussi.
Et ben grand Benjamin Rabier, bien sûr.
Et celle qui continue encore aujourd'hui, qui a la plus longue vie, puisque
Mickey.
Tintin Infini.
Français. Français, je suis pas sûr qu'il y ait. D'ailleurs, Tintin n'est pas. Excusez-nous, il est belge.
Il est belge, je sais.
Oui, mais en l'occurrence, je vois pas. Je voudrais pas historiquement remonter jusqu'où pour trouver un héros. J'ai pas travaillé.
Astérix.
Astérix, oui, bah Astérix, mais Astérix est récent finalement, donc il y en a peut-être qui vivent encore.
Récent, ça de quoi, 61 Astérix
59, 1959.
Merci beaucoup Jean-Christophe Augier d'avoir apporté votre connaissance et votre éclairage, et on vous retrouve chaque dimanche à 10h54 et 15h56 pour BD Bande Dessinée. Leïla, quand on vous a dit que Bruno Podaïdès revenait dans l'émission, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, et quand je pense à vous Bruno, je pense à votre filmographie, mais aussi à des cinéastes qui ont marqué votre parcours. Vous parlez pas mal d'Alain René, mais aussi d'un réalisateur un peu moins connu.
Avec quoi?
J'ai le questionnaire de Proust pour mardi.
Questionnaire de Proust? Mais je pensais que c'était ton premier. Tu rends score, c'est ça?
Oui.
Bon, alors, tu veux que je t'aide, c'est ça? Vas-y, première question.
Quel est pour vous le comble de la misère?
L'absence de papier cul?
Un extrait de Charlotte Forever.
Ouais.
Gainsbourg, réalisateur.
Ah oui, oui, oui. Ah, c'est drôle, j'ai une petite mini anecdote, mais la réponse de Gainsbourg, là, dans une revue de cinéma, on m'a gentiment parlé de Proust comique. Mm-hmm. Et vous voyez la contre-partie qui arrive. J'ai un copain qui me l'a dit naturellement. Donc ça relique l'anecdote de l'humour de Gainsbourg, toujours assez haut.
Alors pourquoi Gainsbourg?
Proust cosmique, non, parce que j'ai comme un gros blanc.
Non, il y a quelque chose à Gainsbourg. Dès que le son est parti, face à moi, vous avez commencé à sortir vos doigts en mode je fume une cigarette. Vous avez tout le... Voilà. Il y a la gestuelle qui est venue, le poignet qui s'enroule.
L'affection surtout.
Ouais. Alors, elle vient d'où cette affection? Et comment vous l'expliquez?
La barbe de 3 jours.
On parle du Gainsbourg metteur en scène aussi. Il y a le chanteur, mais il y a autre chose.
Absolument. J'ai beaucoup d'admiration pour Gainsbourg. Je crois qu'un artiste, il est bon dans tout ce qu'il fait quand il est un grand artiste comme Gainsbourg. Et je me suis intéressé à son cinéma. J'ai même longtemps projeté de faire un livre sur son cinéma pour le réhabiliter, parce que je pense qu'il souffrait un peu d'être... J'avais été le voir lui-même, Gainsbourg, quand il présentait tous ses films une nuit au Gaumont-Alésia. Il était là. Il était très fier qu'on projette tous ses films. Il avait parlé de cinéma et à la fin, les gars était monté sur scène récupérer ses mégots. J'ai vu que ça le... Zut, quoi. Bon, la rockstar était quand même... était là. Et il y a des plans dont on peut parler dans le cinéma de Gainsbourg, que je trouve admirables, notamment Équateur, où il y a un très long plan séquence de pirogue qui avance vers la caméra.
Mais ses dessins, ses peintures, enfin, c'était... C'est le graphisme qui l'intéressait. Il fait même le travail de ses pochettes, c'était lui qui les concevait.
Oui, la photographie, le cadre, oui, c'est sûr, c'était un esthète.
Il a réalisé plein de clips même pour d'autres artistes que lui. Il aimait ça, le cadre. Mais il vous apportait quoi? Quel enseignement avez-vous tiré de votre amour de Gainsbourg?
Gainsbourg, c'était ma première révolte d'adolescent, parce que mon père ne supportait pas de voir Gainsbourg à la télévision en train de chanter avec Catherine Deneuve.
Ça choquait.
C'était effrayant pour lui. Ouais. Et je me suis vraiment rebellé. J'ai défendu très tôt ce poète. Je sentais que c'était de la poésie surtout. Et donc après j'ai du coup toujours eu envie de protéger Gainsbourg.
C'était radical, c'était radical dans sa façon de s'exprimer, radical dans sa façon de filmer, même de dire, de raconter les histoires. Vous envisagiez d'écrire un bouquin sur son cinéma. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est une envie encore aujourd'hui? Parce que je crois que j'ai l'impression qu'on pourrait découvrir un pan du personnage. Ouais.
Oui, je pense. Je crois que j'ai une quantité de livres sur Gainsbourg invraisemblable. Oui, j'ai.
Non, mais on parle du vôtre. Vous n'avez pas recopié les autres livres. Il faut que vous en fassiez le vôtre.
Oui, du coup.
Vous dire, vous avez une documentation pour faire le vôtre.
Oui, c'est ça. J'accumule les notes. Un regard d'un réalisateur sur un autre réalisateur, c'est-à-dire en essayant d'analyser son découpage. Dans une approche cinématographique de son cinéma.
Alors, mais pourquoi faire un livre et pas un film?
D'abord, le film sur Gainsbourg a un peu été fait.
Avec non, mais sur l'autre Gainsbourg, Gainsbourg artiste, peintre, réalisateur, cadreur.
Peut-être qu'effectivement, ça ferait faire un documentaire où on verrait les extraits commentés. Oui, sans doute, oui. Ouais.
Tout à l'heure, nous aurons Tanguy Pastureau qui viendra maltraiter l'information, mais Tanguy, vous êtes déjà là pour nous annoncer qu'Ivanka Trump, la fille de Donald, de la même famille, a tweeté. C'est
oui,
un événement.
Mais oui, cette famille, quand un Trump vient au monde, il fait un live tweet de sa naissance. Ces gens auront plus utilisé leurs doigts qu'un proctologue un peu speed. Elle a posté un proverbe chinois. Seul souci, des Chinois ont vérifié, ce n'est pas chinois. C'est-à-dire que même les proverbes chinois, c'est de la contrefaçon.
Ça sera tout à l'heure dans la dernière demi-heure de la bande originale. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kamboudadi, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Albert Aldour,
bonjour.
Et notre invité Bruno Podalides. Bruno qui signe donc ce film qui sortira mercredi prochain. Nous serons le 20 juin, veille de l'été. Avec, il y a pas d'ailleurs une opération cinéma particulière qui arrive.
Printemps,
la fête de
l'été,
la
du cinéma, ouais, la
fête de la musique le 21 juin. Oui. Il y a pas une fête de cinéma qui arrive, non? Elle a déjà eu lieu.
Il y a déjà eu un printemps du cinéma.
Il y avait la fête du cinéma avant.
Il y a peut-être encore une fête, ouais, qui va arriver.
On payait pas cher et on voyait plein de films.
Vous êtes pas au courant?
Non, je suis pas au
courant. C'est en juillet, alors je crois.
Ouais, peut-être. Peut-être.
En tout cas, votre nouveau long métrage avec Emeline Bayard, que vous aviez déjà fait tourner. Michel Vuillermoz, vous aussi. Enfin, c'est une famille, hein. Karine Viard, votre frère.
D'avoir un noyau. Film. Mais effectivement, il y avait des.
Karine Viard était déjà dans Comme un avion. Si...
Ah non, Karine, c'est une première.
C'était Sandrine. Comme un avion. Ouais.
Oui, j'ai des invités prestigieux à chaque fois. Enfin, pas forcément invités, ils seront réinvités à dîner une autre fois, j'espère. Mais...
En tout cas, c'est un partage que vous faites avec ces deux personnages. Vous vous êtes donné le rôle de Rastaqueros, que l'on peut prendre comme... Enfin, qui est une espèce de voleur, cambrioleur, magouilleur... Madoff de l'époque qui veut se servir de l'argent des uns pour s'enrichir lui-même, mais qui a une espèce d'élégance aussi dans son détournement d'argent et dans ses vols.
Merci. Oui, enfin, je trouve que c'est
un personnage très présent chez Bécassine. J'ai l'impression, si vous voulez, c'est un petit rôle chez Bécassine. Vous l'avez donné plus d'importance. Alors, oui, pour l'intrigue.
Dans les albums, il ressemble beaucoup à Rastapopoulos d'Hergé.
Rastapopoulos.
Et voilà. Je pense qu'Hergé s'est même inspiré de ce Rastapopoulos. Oui, il y a des similitudes, le cigare, le même nez de nazi que. Là, moi, j'en ai plutôt
fait. Fin, escroc.
Oui.
Tout vous, quoi.
Absolument. Ouais.
Pourquoi vous avez besoin de ce personnage?
Parce que j'aime beaucoup, je crois, ce genre de personnage, Pierre Brasseur, ou Arsène Lupin, ou les bandits dans Pinocchio de Comencini.
C'est Claude Brasseur.
Non, Pierre Brasseur.
Pierre Brasseur.
La voix comme
pardon.
Ça. Ouais, ouais.
Oh, non, alors je confonds avec Claude qui avait fait Vidocq.
Ah oui, c'est vrai. Une
espèce de voyou aussi, mais qui avait son élégance.
Non, mais je pensais plutôt à... Quand je prends une voix au téléphone dans le film pour tromper les journalistes et je parle comme ça, enfin, je pensais plus à Pierre Brasseur à ce moment-là, c'est tout.
Ouais.
On se raconte ces trucs, hein.
Ça se met en film.
Cette cuisine interne, ah ouais. Ouais, ouais.
Non, mais et le contrepoids entre ce Rastaqueros, très pragmatique, très matérialiste, et justement la naïveté de Bécassine et sa poésie. C'est cet équilibre-là, parce que les deux s'entendent bien, et tous ceux qui sont autour ont peut-être du mal à comprendre cette entente. Elle a des inventions, lui abuse, entre guillemets, en prenant ses inventions et en les commercialisant, donc tout le monde dit, c'est un arnaqueur, il t'a volé, il t'a dépouillé, et elle dit, mais c'est génial, au contraire, il en a fait quelque chose, moi j'aurais pas fait ça, donc...
C'est peut-être là où vient se nicher l'extrême modernité de ce film, n'est-ce pas? C'est cette poussée de sève qu'a Bécassine pour Rastaqueros. On comprend qu'elle en pince un peu pour lui, quand même, elle danse avec sa silhouette en bois...
Voilà, oui, mais on ne sait pas si c'est un bienfaiteur ou si c'est juste une histoire, une amourette.
Alors ça j'aime bien. Puis je montre le film à des enfants, ils sont très très perturbés par le non manichéisme du film. C'est-à-dire, ils me demandent, mais alors Rastaqueros, il est gentil ou il est pas gentil?
C'est ça.
Ils sont complètement perdus.
Chacun fait son idée. Comme aussi, chacun se fait l'idée de Bécassine. Alors, voilà.
Oui.
Est-ce qu'elle est naïve, poète, est-ce que c'est la, est-ce qu'elle est pure, finalement, sans les règles de la société dans laquelle elle vit?
Moi, pour essayer de la comprendre, pour dresser ce portrait d'elle, hein, parmi d'autres, je l'ai vraiment vue comme quelqu'un qui est une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Et du coup, on a une indulgence. Quand un enfant fait une faute d'orthographe, on s'en moque pas. Quand il tombe par terre, on le relève. Et Bécassine, c'est pareil.
Vous n'êtes pas Daniel Morin, ça se voit. grosse différence.
Non, mais elle a ce côté gauche aussi, même dans la démarche, qui la sépare entre l'état d'adulte et l'état d'enfant. Cette capacité à se mouvoir dans l'espace qui est parfois un petit peu maladroite. Elle oscille, en fait. Elle est entre deux âges, c'est ce qui la rend aussi très attachante.
Oui, elle est à la fois terrienne, les pieds sur terre, et aérienne parce qu'elle imagine, elle est dans les nuages. Ouais.
Le film sort mercredi prochain et ça s'appelle tout simplement Bécassine, signé Bruno Podalides. Il maltraite l'information et c'est signé Tanguy Passion. Alors Tanguy, vous le dites clair, haut et fort, la plupart d'entre nous n'ont aucune culture.
Non, moi notamment, ça fait 9 mois et demi que je fais le beau sur France Inter alors que je suis écouté par des gens plus intelligents que moi. Des profs à la retraite, mais aussi des profs en activité et même des profs en formation. Je suis pas borné, je sais que nos auditeurs viennent de toutes les académies. Quand je vois Leïla qui connaît tout surtout, Albert qui a une culture folle, je me sens nul. Alors je vous regarde Nagui et ça va mieux. Pour les gens comme nous, mon chaton. Oui, c'est la fin de la saison, je me la changer aussi de huile de massage, si vous voulez. Eh bien, pour nous, il y a un subterfuge pour faire croire qu'on en a dans le ciboulot, les citations. Il suffit d'en connaître 3 pour briller comme une luciole qui serait posée sur la tombe d'un cycliste dopé. Par exemple, Jean Cocteau a dit « Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. » Donc, on le citera lui plutôt qu'Evangélie qui a dit « Aimer, c'est cool. » Ou Zaya qui a dit « Aimer, c'est 400 euros, tarif groupe applicable. » Citations, il y en a plein. Ça va de Nicole Belloubet qui a dit « Mais enfin, laissez-moi entrer, je suis Nicole Belloubet » lorsqu'elle était devant son ministère et que le vigile ne la remettait pas. « Ah purée, il n'y a pas à dire « Je t'aime, t'es un génie, mec !» Citation de Nicolas Bedos à lui-même alors que son visage se reflétait dans une vodka pomme servie par une étudiante en prépa littéraire en job d'été, moite à l'idée de croiser un tel esprit. Mais le mec qui a pondu le plus de citations, c'est celui que Nabila appelle ce con de Fucius, un chinois. D'où sa production, né en 551 avant J.C., Gérard Collomb, donc c'est vieux. C'est un philosophe considéré comme le premier éducateur de la Chine, hein, l'équivalent de Pascal le grand frère, sauf que lui n'a jamais été confronté à des jeunes de 13 ans en train d'enterrer leur mère dans un bois des Ardennes. Quand vous êtes un peu con, une citation de Confucius, c'est comme s'enfiler 4 litres de bois bandé, quand son sexe, qui vient de se syndiquer à la CGT parce que Philippe Martinez s'est épilé la moustache en ticket de métro, décide de faire grève. Ivanka Trump, la fille de Donald, donc petite cousine de Riri Fifi Loulou. Sur Twitter avant-hier, en voyant Donald et Kim Jong-un se dire l'un à l'autre « Frérot, tu veux pas le 06 de Franck Provost qui rattrape ça ?» a écrit « Le sceptique ne doit pas interrompre celui qui agit, proverbe chinois. » Elle s'est dit « Chinois, Coréen, c'est pareil. » C'est comme si nous, pour saluer le maintien de la paix entre Hutu et Tutsi au Rwanda, on citait Yusundur. Seulement Twitter, c'est mondial, à l'instar des chansons de Taylor Swift et de l'herpès labial. Et donc des internautes chinois ont vérifié et ils sont formels, le proverbe n'existe pas. Hein, ils ont juste trouvé « qui ouvre sa bouche trop grand se fait éclater à coups de tatane toutes ses dents », un proverbe du président chinois Xi Jinping, notre ami.
D'accord, mais je vois pas le rapport avec Confucius.
Eh ben, figurez-vous qu'en 2013, Ivanka Trump avait tweeté « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie hein, ». Le genre de connerie qu'on se dit quand on n'a pas à gagner à l'euro-million et qu'on est obligé de taffer au lieu de regarder Motus en bouffant des pizzas, ce qui là est une vie normale. Elle avait ajouté « Confucius hein, ». Écrire Confucius après un proverbe, c'est comme quand David Douillet dit à la fin d'une conversation « point final » en levant le bras droit, ça clôt la discussion. On se dit « Ok Confucius, je lutte pas hein, ». Ivanka, elle est forte. Moi, le seul chinois que je peux citer, c'est le vieux sage dans Gremlins quand il dit surtout pas donner gizmo, manger après minuit, même demi-pépito. Hein, seulement là aussi, des experts avaient vérifié et Confucius n'a jamais dit choisis un travail que tu aimes. En fait, il est très décevant. Hein, il a dû dire une fois à sa femme, bébé, passe-moi le sel, et on en a fait tout un truc. Hein, si ça se trouve, il avait une super attachée de presse, celle qui a bossé sur la promo de Taxi 5. Elle nous a fait croire que c'était un génie. Alors, j'ai regardé sur le net, hein, sur le forum des fans de Confucius. Confucius qui tape sur leur ordi avec les doigts de pied pendant qu'ils font du yoga. Et Confucius a quand même dit, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Hein, moi, je dis pareil aux mendiants dans la rue. Je leur dis, monsieur, je ne vous donne pas de sandwich, mais un conseil, cultivez donc un petit lopin de terre afin de faire pousser du quinoa bio et vous intégrer dans le Paris d'Anne Hidalgo. Mais attention, je me méfie, mieux vaut lui apprendre à pêcher que donner un poisson, aussi bien c'est du Laurent Wauquiez. Hein, il s'habille avec une parka de pêcheur de thon, c'est pas impossible qu'il soit totalement branché mer. Peut-être se caresse-t-il en écoutant la météo marine et en murmurant « c'est qui cette tecto-pascal ?» Alors Confucius a également dit « Quiconque entend les cris d'un animal qu'on tue ne peut plus manger de sa chair. Hein, » Pour les couillons qui pensent que le végétarisme c'est une mode, eh ben Confucius était végétarien et il était très intelligent. Donc ce qui a rendu Émeric Caron comme ça, c'est pas le fait de manger des légumes. Bref, ce Confucius avait un avis sur tout. Ainsi vivait à notre époque, il dirait Christophe Barbier, « Coco, tu dégages, moi aussi j'ai la science infuse. Et je suis minorité visible, ta race le mâle blanc. » Et l'autre irait pleurer dans son écharpe. Enfin, Confucius disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais. » Ou alors c'est Carla Bruni qui a dit ça. En tout cas, c'est vrai. Alors, chut, je me tais.
Merci, Tanguy Bertion.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Qu'est-ce qui a été de plus difficile, Bruno Pudalides, pour faire Bécassine, la reconstitution, le tournage a été, au contraire, extrêmement simple.
Ce qui est difficile, c'est de tourner avec des enfants. Parce qu'on a envie que ça se passe bien, que ça soit heureux, et parfois on n'a plus le temps, et là il y a la météo, donc on est là tout souriant, alors qu'en fait on est en train de flipper grave et que le plan est
vous
en train
bien,
de...
Vous le faites ouais, bien, oui, ça. Ouais, ouais, ça, vous le tenez bien.
C'était pas évident, ouais.
Et d'être responsable à ce point d'un film, c'est un poids à tous les niveaux de l'écriture, de la réalisation, du jeu,
écoutez,
de la production.
Je dirais que mon moteur à moi, c'est la conviction. Et j'ai une conviction profonde à chaque fois que je m'engage sur un film. Là, ma clé de voûte, c'était le choix d'Emile Maillard pour le rôle de Bécassine. Et je me suis appuyé.
Ça a commencé un peu comme Édouard Baird. Au début, le ton de la voix que vous avez pris.
Et ça finit comme Edouard Baird aussi, un peu dans les graves et posés.
Le mec, il croit de moins en moins à ce qu'il dit.
C'est ça.
Parce qu'il a des doutes parfois terribles, ouais.
Le travail, on parlait tout à l'heure du travail, de la démarche. Ouais. Pas uniquement du costume, mais aussi de la dégaine, de dos sur la route. On la reconnaît, on sait c'est elle.
Oui. Oui, c'est l'endroit où...
Ça, c'est pas dans la BD, ça. Il faut
c'est suggéré par les dessins, quand même. Ouais. Son corps est penché en avant. Il y a une asymétrie des pieds quand elle s'assoit. Ce que j'aime bien, c'est que c'est l'endroit où Ilmine et moi, on sait pas parler. Ça c'est beau, ça. Quand c'est juste une démarche qui nous dit, on se dit, moi, ça me bouleverse, cette façon de marcher d'Aka Bécassine. Et voilà. La note, le là du film était trouvé, dans ces quelques pas, lors des essais de costumes.
Et est-ce que la BD était aussi gaguesque, j'entends par là, est-ce que c'était aussi drôle? Parce que moi, il y a plein de plans moi, qui m'ont fait hurler de rire. Quand on voit le petit chiot de la comtesse quand on voit ce qui est capable de sortir de son corps, le contraste ou les scènes de farce qui relèvent de la farce avec votre frère, avec Denis Podalydès, ouais. Où vous frappez l'un sur l'autre, tout ça, c'est...
Et à mon avis, il n'y a pas de cascade, là. Ils se frappent vraiment l'un sur l'autre.
Oui. La première prise, on faisait même... comme nos jeux d'enfants.
Le bruit.
Donc, la gestion m'a dit, c'est peut-être pas utile, le bruit d'été. On a retrouvé immédiatement nos vieux réflexes, ouais. Ouais. Ben non, c'est, par le gros caca du chien, c'était, c'est une espèce d'idée comme ça, que j'ai eu quasiment au tournage. J'ai mis en compétition, mon décorateur et mon accessoiriste pour qu'ils me produisent le meilleur. J'ai fait d'ailleurs un énorme.
Vous avez fait un casting de caca?
Oubli, non, mais il y a un quiproquo énorme lors d'un débat, parce que j'ai juste dit que j'ai mis en concurrence toute l'équipe. Je m'entendais bien que c'était de l'ordre de la fabrication, de l'accessoire. Et il y a un blanc dans la salle et j'ai compris que c'était...
Il y a eu un blanc à l'antenne aussi.
c'est bizarre ce tournage, ouais. C'est curieux.
L'enchaînement est tout trouvé, voici Daniel Morin.
Ah le salaud.
C'est le plus simple de 4 ans d'enchaînement, incroyable.
Mais c'est pas le plus mauvais.
Allez, c'est parti, direction la Russie. 32 équipes sont réunies pour disputer la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde de foot. À la veille de l'ouverture, prenons quelques nouvelles des héros au pied magique. Chauvinisme oblige, commençons avec l'équipe de France. Hier, coup de tonnerre, Kylian Mbappé s'est blessé, ou plutôt a été blessé. Un coup sur la cheville pendant un entraînement télescopage avec le défenseur Adil Rami. Heureusement, tout va bien. Plus de peur que de mal. Mais bon, la France a tremblé. C'est quand même dingue cette histoire. Un Français blessé par un autre Français. Revenons sur les faits. Tout a commencé suite à une réunion de groupe avec Didier Deschamps.
Bon les garçons, la compétition va commencer dans 3 jours. On se fait l'Australie. Attention, c'est des bouts dans les Australiens. Hein. Il faut nous montrer qu'on a du tempérament nous aussi. On ne fait pas de cadeaux. On joue viril en défense, compris ? Oh, Adil, t'as compris ce que j'ai dit ?
Adil.
Salaud ! T'as pas le droit.
Non, coach. Viril, ça veut dire on joue musclé, agressif, on rentre dedans. Tu as compris ?
Ouais, voilà, c'est bon, j'ai compris.
Bon, super. Allez, maintenant, entraînement pour tout le monde. Allez, hop, sur la pelouse.
Le problème, c'est que Adil Rami, entraînement en compétition, bah, il fait pas trop la différence.
Ouais, vas-y, Kylian, Kylian, vas-y, dribble de bande.
Oh, ballon, joueur, agressif. J'y vais. J'y vais.
Ah ! Ah, ma jambe !
Adil Rami a suivi les consignes, sauf qu'il n'a pas compris qu'il fallait pas casser la jambe de ses partenaires. C'est maintenant officiel dans l'équipe de France. Adil Rami est...
la chèvre.
Non.
Oui, c'est la chèvre. Que va-t-il comprendre ? Que va-t-il faire comme connerie pendant toute cette compétition ? Va-t-il essayer une deuxième fois de casser la jambe de Kylian Mbappé pendant un entraînement ? Va-t-il tuer un Australien dans 3 jours ? Doit-on l'enfermer dans une cage avant chaque match ?
Alors, vous le saurez en suivant les aventures de Adil la chèvre. Alors voilà pour l'équipe de France qui, si Adil hein, ne mute-t-il pas ses coéquipiers, devrait entamer sereinement cette compétition. Autre nation en pleine préparation, un peu houleuse, l'équipe du Mexique. En ce moment, gros scandale, avant de partir pour la Russie, 9 joueurs de l'équipe nationale mexicaine auraient passé un petit week-end avec une trentaine de prostituées. Quelques vidéos circulent.
Ils étaient 9 pour 30.
Ouais, 9 pour 30. Ah mais la fin le Mexicain. Hein. Quelques vidéos circulent et ma foi, tout ce petit monde a l'air de bien s'amuser. Hein, que je fais la chenille tout nu dans la piscine. Bref, ce que Nagui appelle la vraie fête. Alors, au Mexique, ça ne fait pas rire tout le monde, surtout pas la population. Interrogé sur l'affaire, le patron de la Fédération Mexicaine de Foot a clamé l'innocence des joueurs et a calmé le jeu en déclarant...
Macaramba, y a pas de problème, mais les gars ont manqué aucun entraînement. Ils ont fait la fiesta pendant leurs jours de congé. On fait ce qu'on veut pendant ces jours de congé. Si on veut faire de la bicyclette, on fait de la bicyclette. Si on fait le partout, on fait le partout. Foutez-moi la paix, je m'en vais, j'ai rendez-vous avec les copines. C'est mon jour de congé. Bah quoi? Il a raison, le gars. On a quand même le droit de s'amuser, de décompresser avant une grande compétition. Merde, à la fin. Surtout si c'est pendant son jour de congé. Si ça se trouve, ça va donner des idées aux autres sélections. France Inter, flash spécial, scandale à la Coupe du Monde de foot en Russie. Après le Mexique, c'est au tour de l'équipe de France d'être dans le collimateur. Une vidéo circule où on voit des joueurs tout nus dans un jacuzzi géant en compagnie de prostituées. On reconnaît Didier Deschamps, le seul sur la vidéo à avoir gardé ses chaussettes et son sifflet. Une petite fête entre amis qui a malheureusement mal tourné. En effet, au moment du grand regroupement dans le jacuzzi, on voit arriver un joueur en courant qui, pour une raison étrange, se met à casser les jambes des filles. On ne connaît pas l'identité du joueur qui était masqué. Des témoins ont déclaré avoir seulement entendu une petite musique pendant que le maniaque martyrisait les pauvres filles. Une musique bien particulière qui, on l'espère, servira d'indice aux enquêteurs. Mais qui donc peut bien être ce fou furieux qu'on surnomme maintenant la chèvre ? Bon, j'espère que tout ça va se tasser, cette affaire. Faudrait pas qu'on perde un de nos meilleurs défenseurs quand même. Allez, à demain.
Merci, Léon. Avec Nagui. Bon alors, petit 1, il s'est excusé. Petit 2, il n'a pas cassé la jambe, il a marché sur le pied. Et petit 3, Mbappé va bien.
Ok.
Voilà. Non, mais.
Ok, très bien.
C'était pour finir l'information. C'est
vrai que c'était pas vraiment de la formation, ce que je viens de dire.
Mais des fois, si.
Surtout, on va lui donner le numéro de Daniel, comme ça, il pourra l'appeler et discuter avec lui.
Je m'en occuperai personnellement. Voilà. Personnellement.
Comme ça, ça va être réglé.
Bruno Bonalides, est-ce qu'il y a dans tous vos films, dans votre filmographie, des liens, peut-être pas le côté caméo, mais est-ce que vous avez des plans fétiches que vous remettez dans les films ? Est-ce qu'il y a une logique, une lecture presque horizontale de vos films ?
Je sais pas des liens, je sais pas quoi, mais enfin j'ai du mal à m'exprimer tout d'un coup.
C'est la question.
Je suis toujours embarrassé quand il s'agit de parler.
C'est pas compliqué.
Non, j'ai une réplique récurrente que j'aime bien, c'est il y a pas de, non il y en a pas. On ne saura jamais de quoi il s'agit. Et c'est encore dans le dernier.
Et ça, vous,
dans tous les films.
Voilà.
Et je cache aussi ma petite fusée Tintin.
Et vous mettez votre fusée Tintin. Ouais, c'est ça. Bon, alors, je l'ai pas trouvé là.
Ah bah tant mieux, ça prouve que vous n'êtes pas embêté. Il y a quelqu'un qui le voit dès la première vision.
Ah oui, je l'ai cherché.
On la voit bien dans deux plans.
Je sais pas, je suis dégoûtée.
Non, mais écoute, ça prouve que tu étais prise par le film et par l'histoire et pas en train de chercher des anachronismes, justement.
Non, mais je cherche la fusée à chaque fois.
Tu cherches la fusée.
J'ai la glaviole aussi, j'ai un objet que je mets dans tous mes films. Quelqu'un se prend les pieds dedans dans chacun de mes films. Elle s'appelle la glaviole et voilà. Et ça n'a aucun sens, on ne sait pas ce que c'est. C'est la marche cassée du
Christophe.
Monsieur Boulu.
Ouais.
Quels sont vos projets au-delà, je rappelle, le film sortira ce mercredi 20 juin, mercredi prochain. Quels sont vos projets, vos envies?
Je vais partir en vacances pour très prochainement.
Okay. Professionnellement parlant.
J'ai deux films sur le feu.
Wow.
Non engagés, donc je ne peux pas trop en parler, mais j'ai deux projets. Oui.
Parce que vous vous dites que les deux ne pourront pas fonctionner, il faut toujours en avoir un plan B.
Non, il y en a un qui mûrit, qui tombe plus tôt que l'autre en général.
Et qui sont historiques, qui sont aussi des adaptations.
Il y en a un qui est historique, ouais. Assez ambitieux même, je peux le dire.
Très bien, très bien. On aura l'occasion d'en parler. Vous reviendrez quand vous voudrez, uniquement dans la dernière partie de cette émission. Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, déjà, alors désolé pour Marina Rollman. J'ai la très très forte impression que plusieurs auditeurs aimeraient t'aider à mieux connaître certaines parties de ton corps. Pour simplifier le contact, j'ai mis ton 06 sur le Facebook de l'émission, bien entendu, si je peux filer un coup de main. Désolé pour nos auditeurs fans de BD et de racisme, ils sont nombreux, et qui ont très mal vécu d'apprendre que la première BD était suisse. Alors, pour simplifier les règlements de compte, Marina, j'ai mis ton 06 sur le Facebook de l'émission, bien évidemment. Désolé pour la caste des invités grâce à Bruno Podalides. Hein, on a pu se rendre compte aujourd'hui pendant 45 minutes qu'une émission sans invité était plutôt agréable. Hein, voilà. On se sent plus libre, pas obligé d'être sympa. On peut dire ce qu'on pense vraiment. On peut cramer les œuvres des autres, hein, humilier le travail des gens. Bref, la vraie vie, c'est ce qu'on appelle le Hanouna way of life, un petit peu.
Mécassine avec Emeline Bayard, Karine Viard, Denis Podalides, Bruno Podalides, Michel Vuillermoz est au cinéma à partir de mercredi prochain, le 20 juin. Merci beaucoup.
Et vive la France. Bruno. Et vive Podalides. La France, comme le dit Loulotte à l'orphelinat. Et vive la France.
Exactement. Demain, nous parlerons et nous recevons.
Quelqu'un.
Non, oui, demain.
Victoria Bedos et Jarry.
Pour Christophe.
Exactement.